Radio Livre Dormir.
Radio Livre Dormir.
Radio Livre ou Dormir.
Retransmission de rencontres littéraires.
Le matin, de 8h
à 10h, le jeudi matin.
Radio Livre ou Dormir.
Retransmission de rencontres littéraires.
92.2
sur Canal Sud.
92.2.
Rencontre avec Francis Dupuy-Déry autour de son livre « Démocratie, histoire politique d'un mot » aux États-Unis et en France, paru aux éditions Luxe. Une rencontre qui a eu lieu à Terra Nova le vendredi 25 octobre 2019.
Merci à vous d'être ici ce soir. On m'a demandé de vous parler de la démocratie. Donc, je vais vous présenter rapidement mes propres réflexions là-dessus. Par définition, évidemment, le mot démocratie, les réflexions sur la démocratie appartiennent pas à quelques individus, encore moins aux professeurs d'université ou aux gens qui écrivent des livres. Mais je vais quand même vous présenter ce que moi j'ai tenté de démontrer. Donc, rapidement. Pour laisser de la place aussi à la discussion, donc je vous fais cette histoire politique du mot rapidement. Donc en fait, mon travail a commencé avec une sorte de d'énigme, de questionnement que je me posais en lisant les travaux d'autres personnes qui avaient travaillé sur le mot démocratie, des fois dans des perspectives relativement mainstream d'ailleurs. Comme en France, vous avez Pierre Rosanvallon qui a beaucoup travaillé sur la question du mot démocratie. Il y en a qui ont travaillé sur la question du mot démocratie aux États-Unis. Et au Canada, mais on ne parlera pas nécessairement du Canada aujourd'hui parce que c'est pas nécessairement votre réalité. Je vous mentionne tout de même que lundi dernier, Justin Trudeau a été réélu comme premier ministre, donc, et que la reine Élisabeth II se porte bien. Ça c'est pour les nouvelles Paris Match. Sinon, cette énigme. Donc, en regardant les travaux d'autres personnes qui avaient travaillé sur la démocratie, mais aussi en lisant en fait des textes de l'époque de l'époque de la Révolution française de 1789. Donc, comme vous le savez, il y a énormément de textes disponibles, des lettres, des journaux, des déclarations de parlementaires, des manifestes. Et puis, en faisant le même travail du côté des colonies britanniques d'Amérique du Nord, donc ce qui va devenir un jour les États-Unis d'Amérique, j'ai été surpris de constater que le mot démocratie, en fait, par ceux qu'on va appeler plus tard les pères fondateurs de ce qu'on appelle les démocraties modernes, donc il y a beaucoup de concepts importants là-dedans. Donc les pères, c'est des hommes, fondateurs parce qu'ils ont fondé les nouveaux régimes, et démocratie moderne parce que c'est la fondation de ces régimes qu'on considère comme des démocraties, mais sous une nouvelle forme, moderne. Donc ces pères fondateurs de la démocratie. Donc en fait, mon étonnement, c'était qu'ils n'utilisaient presque jamais le mot démocratie pour parler de ce qu'ils voulaient faire. Ils ne s'identifiaient pas comme démocrates. Et en fait, les rares fois où le mot démocratie ou démocrate était utilisé, c'était pour étiqueter en fait des adversaires en les dénigrant. Donc le démocrate, c'était toujours l'autre. Donc les monarchistes en France ou les loyalistes dans les colonies britanniques accusaient les républicains, je fais l'histoire rapide parce qu'évidemment le mot républicain lui aussi a son histoire, mais accusaient les républicains conservateurs ou modérés d'être des démocrates, et eux disaient non, nous ne sommes pas des démocrates, nous sommes des républicains, nous sommes raisonnables, les démocrates c'est les autres, et donc ils accusaient les républicains plus radicaux d'être des démocrates, qui disaient nous ne sommes pas démocrates, nous sommes des républicains, nous sommes des gens raisonnables, et les démocrates en fait, c'est les gens dans la rue qui se promènent avec des piques, avec des têtes au bout de la pique. Et qui après on a coupé leur propre tête. Et donc le démocrate, pour le faire vraiment faire une analogie vraiment qui serait très contestable d'un point de vue historique, mais qui parle, je pense, qui m'aide à résumer mon propos, le démocrate à ce moment, c'est l'équivalent de l'anarchiste aujourd'hui. Donc c'est la plèbe, c'est le chaos, c'est la violence, c'est une sorte d'irresponsabilité, c'est des jeunes, le mot casseur n'existait pas à l'époque, mais c'est des jeunes casseurs, c'est des gens qui respectent rien, qui respectent pas la propriété privée, qui respectent pas les institutions, qui ont pas de projet politique, et donc c'est ça la démocratie, ou les démocrates. Et donc, mon énigme, ma question, ce que j'ai essayé de comprendre, c'est, oui, mais pourquoi alors, si les pères fondateurs de nos régimes étaient antidémocrates, pourquoi aujourd'hui on considère que ces régimes sont démocratiques, on les appelle des démocraties, que l'élite politique elle-même se présente comme démocrate et comme démocratique? Donc, je me suis dit, il doit bien y avoir un moment où il y a eu une transformation au niveau du sens du mot. Donc, c'était ça ma démarche. J'étais d'essayer d'en trouver, d'en fournir une explication politique. Donc, peut-être, premièrement, avant de vous spoiler la fin du livre et du film qui s'en vient, avec Gérard Depardieu dans le rôle du réactionnaire, il y a... ce serait son plus grand rôle, d'ailleurs. Il y a évidemment des explications pourquoi, en fait, les pères fondateurs ne voulaient pas parler de démocratie pour parler de leur projet. Il y en a plusieurs, en fait, des raisons. C'est que les pères fondateurs, ils avaient été, pour ainsi dire, formés à une culture gréco-romaine. Ils avaient un tuteur, s'ils étaient de bonne famille, ou ils étaient allés dans des collèges classiques. Certains d'entre eux parlaient un peu le grec et le latin. Et donc, ils avaient une compréhension de la démocratie qui faisait référence à Athènes. Et Athènes, contrairement à ce qu'on pense aujourd'hui, Athènes n'était pas un modèle de référence positif, c'était un contre-modèle. Et Athènes était considérée en fait comme une ville problématique dans l'Antiquité, instable, sujette à du chaos, des turbulences, des retours de la dictature, une ville beaucoup moins intéressante que Rome, par exemple, qui était le vrai modèle à l'époque pour la politique. Et d'ailleurs, quand les États-Unis d'Amérique vont être fondés, les référents, les représentations de référence, c'est Rome. L'aigle, le symbole des États-Unis, il est pris de l'aigle romain. Le Sénat, il est pris de Rome. Donc, ils ont cette culture classique, les pères fondateurs, mais leur modèle, c'est Rome, principalement. Et Athènes, c'est considéré comme la référence de ce qu'est la démocratie. Et donc, la démocratie de Athènes, c'est un régime où les citoyens se gouvernent directement, sans élection, sans représentation. Et ça, en fait, c'est source de chaos, d'instabilité, de mauvaises décisions, parce que n'importe qui peut... les hommes, d'origine grecque et adulte, prennent des décisions ensemble, mais dans ce démos, dans ce peuple, il y a en fait des charpentiers, il y a des boulangers, il y a des rameurs, il y a un peu n'importe qui, donc, et ces gens n'ont pas l'intelligence politique nécessaire pour prendre les bonnes décisions, c'est-à-dire se préoccuper du bien commun. Et donc, Athènes est le contre-modèle. Et quand ils pensent à Athènes, quand ils pensent à la démocratie, ils pensent à Athènes, et ils ne veulent pas fonder un régime qui ressemble à Athènes. Pour une raison de culture politique et historique, mais aussi pour une raison d'intérêt concret, c'est-à-dire que nos pères fondateurs en France et dans les colonies britanniques, ils siègent en fait pour la plupart déjà dans des instances. Donc comme vous le savez, je ne vais pas vous raconter quand même la Révolution française, là vous avez vu le film j'imagine, mais avec Gérard Depardieu d'ailleurs, ils siègent déjà dans des instances représentatives. Donc, par exemple, en France, c'est les États généraux. La plupart sont membres des États généraux. Et aux États-Unis, dans les colonies britanniques, ce que je ne savais pas avant de faire mes recherches, c'est que il y avait aussi des assemblées coloniales, qui étaient des sortes de petits parlements locaux au Massachusetts, dans le Maine et ailleurs, qui ont pas les mêmes pouvoirs que le Parlement, les Commons à Londres, mais qui ont quand même des pouvoirs politiques. Et donc, la plupart de ces pères fondateurs, ce sont déjà des parlementaires. Et donc, évidemment, comme ce sont des parlementaires, le modèle de Athènes leur semble non seulement aberrant parce qu'ils ont une formation classique qui leur dit que c'est un mauvais modèle, mais aussi parce qu'en fait, s'ils fondaient un système qui ressemblerait à Athènes, ben en fait, ils seraient au chômage, en fait, il n'y aurait plus de parlement et donc ils serviraient à rien. Et donc, évidemment, eux, dans leur lutte politique contre la couronne, que ce soit dans les colonies britanniques ou que ce soit en France, ils veulent le pouvoir, mais ils veulent le pouvoir, évidemment, pour leur assemblée, que leur assemblée, en fait, récupère les pouvoirs qui sont associés à la couronne et se débarrasser, évidemment, de la couronne. Donc ça, c'est, évidemment, comme je vous l'ai dit, c'est très, très rapide, mais c'est les deux explications principales pour lesquels ils ne parlent pas de démocratie et pour lesquels, quand ils utilisent le mot démocratie, c'est péjoratif, c'est associé aux pauvres, au chaos, à la violence. Et donc en France, il y a la Révolution. Et aux États-Unis, il y a, dans les colonies britanniques, il y a l'indépendance. Donc c'est fait, il y a la fondation de ce qu'on va appeler plus tard, bien plus tard, la démocratie moderne. Et donc, ma question, c'était de savoir pourquoi le mot a changé de sens et pourquoi l'élite se l'est réapproprié. Et donc, ce que j'ai trouvé, c'est que vers la fin des années 1820, là, je vous passe quelques anecdotes croustillantes, mais vers la fin des années 1820, ça commence aux États-Unis, il y a un politicien qui s'appelle Andrew Jackson, qui est en fait un outsider, ce serait aujourd'hui, on le considérerait comme un populiste. Il ne fait pas partie de la grande famille des pères fondateurs. Justement, ça va être le premier président qui ne sera pas de cette grande famille, les Washington, les Adams, les Jefferson. Lui, il ne vient pas de ces mêmes réseaux sociaux. Il a fait, comme on dit aux États-Unis, il s'est fait lui-même. Il a une carrière militaire et il est devenu célèbre en fait en massacrant des autochtones. C'est une manière de devenir célèbre en Amérique du Nord. Et donc, il est considéré comme un héros de guerre. Et il arrive, il se présente aux élections à la fin des années 1820 pour devenir président des États-Unis. Et contre d'autres candidats, et tous ces gens-là parlent de république, se présentent comme des républicains. Il n'y a pas encore des partis politiques comme on les a aujourd'hui. Et il perd. Et il prend 3-4 ans pour réfléchir à sa prochaine campagne électorale. Et en fait, il revient en campagne électorale et il dit avec son équipe, en fait, ils se disent, en fait, on va utiliser la carte de la démocratie, on va utiliser le mot démocratie, on va utiliser le mot démocrate pour se présenter nous-mêmes et pour nous distinguer de nos adversaires, pour nous présenter, nous, comme servant les intérêts du petit peuple et pour dénigrer, en fait, nos adversaires, on va les présenter comme des aristocrates. Et donc, dans la campagne de Jackson et dans les rassemblements de Jackson, les journaux de l'époque nous le disent, c'est pas moi qui ai fait l'analyse, là, c'est dit à l'époque, les journaux à l'époque de Jackson, il y a des journaux pro-Jackson, disent dans la foule, lors des meetings publics de Jackson, la foule crie vive la démocratie, abat l'aristocratie. Et Jackson, lui, dit, je suis un démocrate, je défends la démocratie, si vous votez pour moi, ce sera le triomphe de la démocratie contre l'aristocratie financière des centres industriels ou pré-industriels et les banques de la côte est américaine et les ports, entre autres, et contre l'élite politique de Washington. Et donc, il y a deux aristocraties. Il y a l'élite, l'aristocratie politique et l'aristocratie financière. Et donc, Jackson se présente comme le défenseur de la démocratie en référence au peuple. Le peuple, pour Jackson, ce sont les travailleurs manuels dans les petites manufactures, dans les ports, dans les villes pré-industrielles ou qui commencent à s'industrialiser. Et surtout aussi les petits paysans, les petits fermiers du Midwest américain qui ont une culture, des idéaux plus égalitaires entre eux, là, pas avec les autochtones dont ils ont pris les terres, mais entre eux, et qui se méfient de l'élite financière et de l'élite de Washington. Donc c'est à cet électorat-là qu'il s'adresse. Vous me suivez? C'est bon, ça? Et donc, Andrew Jackson gagne les élections. Donc, il devient le premier président démocrate, si on peut le dire en ces termes. Et les journaux de l'époque sont tout à fait conscients de ce qui s'est passé en termes de discours. Aujourd'hui, on parlerait de marketing politique. Ils sont tout à fait conscients de ce qui s'est passé. Et dans les années qui suivent, très rapidement, en fait, les journaux qui appuient les différentes forces politiques aux États-Unis vont commencer à débattre entre eux, et les politiciens débattent entre eux à savoir qui est le vrai démocrate, et tout le monde commence à dire qu'ils sont des démocrates et que les autres sont... Et il y a même des sortes de livres, de manuels, de conseils électoraux qui explique comment, en fait, aux États-Unis, on ne peut plus gagner si on ne se présente pas comme démocrate et que le mot démocratie, c'est vraiment le mot le plus efficace en campagne électorale. Ils le disent à l'époque même, là, on est dans les années 1830 et rapidement, 1840, donc il va y avoir le parti de Jackson qui va se donner le nom de parti démocrate et les républicains, les pré-républicains vont dire qu'en fait, c'est eux les vrais démocrates, et les démocrates vont, c'est un peu des batailles de cours de récréation, là, mais ils vont dire, ah, vous volez notre nom, prenez n'importe quel nom, mais pas notre nom, etc. Donc, c'est vraiment une bataille au sujet des mots. C'est explicite dans les textes à l'époque, c'est pas une analyse très, très sophistiquée que je fais. Je vais juste vous rapporter ce que j'ai lu dans les journaux. Et donc, ils se battent vraiment au niveau du sens du mot. Donc, ce qui est important de voir, je pense, c'est que le régime dans lequel on vit, donc, sa propre élite l'a fondé en disant qu'il ne fondait pas une démocratie, et à un moment donné, pour des raisons d'efficacité électorale, ont décidé de dire que c'était une démocratie, mais en fait, ils n'ont rien changé. Ils ont juste changé le nom. et le régime est resté pareil. Et quand Jackson prend le pouvoir, évidemment, Jackson, il ne détruit pas le Sénat, il ne détruit pas le Congrès, il n'abolit pas la présidence, il ne change pratiquement pas non plus, d'ailleurs, les règles électorales. Et donc, en fait, d'un point de vue organisationnel de qui prend les décisions dans un pays, par exemple, il n'y a rien qui change. Donc, c'est pas le changement de régime qui permettrait ou qui juste ferait un changement de nom, c'est simplement un changement de nom sans changement de régime. En France, évidemment, c'est toujours plus compliqué. En France, c'est énervant, mais pour le faire très vite, c'est pareil, mais évidemment, c'est différent. Mais j'ai pas le temps de vous expliquer en quoi c'est différent, mais c'est pareil. Et donc, c'est juste que c'est un peu plus tard. Je vous rappelle évidemment qu'il n'y avait pas Facebook, ça vous le savez sans doute, mais il y avait quand même des échanges entre les États-Unis et la France. Beaucoup de personnes voyageaient des deux côtés. Il y avait les journaux qui parlaient de ce qui se passait d'un côté et de l'autre. La figure emblématique de ça, c'est, je sais pas où il est, mais c'est Alexis de Tocqueville avec De la démocratie en Amérique, mais Alexis de Tocqueville, c'est un parmi vraiment plusieurs autres. Et donc, les Français et Françaises, mais surtout des acteurs français pour l'instant dont je parle, puisque je parle de l'élite politique en ce moment, on voit ce qui se passe aux États-Unis et en France dans les années 1830, il commence à avoir ce qui pourrait se nommer un mouvement socialiste. On est à la recherche de noms, d'ailleurs. Comme vous le savez, évidemment, en France, vous êtes revenu à la monarchie, donc vous n'êtes plus une république à ce moment-là. Il y a eu plusieurs restaurations. Il y a eu un empereur avant aussi. Pourquoi je vous raconte ça? Ah oui, donc c'est ça. Donc c'est pas le même système, c'est pas la même situation qu'aux États-Unis, où là, aux États-Unis, on était dans une république, et là, vous êtes dans une monarchie. Donc en fait, l'opposition au régime, ce sont des républicains, right? Et donc ces républicains, ils se divisent en différentes tendances. Il y a des républicains conservateurs, il y a des républicains très proches des monarchistes d'ailleurs, des républicains modérés, des républicains qui commencent à penser qu'ils sont peut-être quelque chose comme des socialistes. Et donc dans les années 30, pour se distinguer entre républicains dans l'opposition, il va y avoir des républicains qui vont commencer à dire que leur projet, c'est une république démocratique et sociale. Donc, ils utilisent le mot démocratique de façon positive, démocratique et sociale. Et vous avez des banquets républicains, vous avez des événements et des journaux, etc., qui parlent de ça, qui parlent de la république démocratique et sociale. Donc là, le mot est positif, mais la monarchie tient. J'ai même vu des informations qui disaient en fait qu'à certains moments, l'utilisation du mot république ou républicain en France sous la monarchie était un acte séditieux. Vous connaissez ça en France, évidemment, vous êtes spécialiste de liberté d'expression, mais en fait, vous en interdisez plein, et donc c'est pas nouveau. Et donc, en fait, les monarchistes disaient, le mot république, c'est un mot séditieux, c'est un mot dangereux, et donc il y avait des moments où c'était même interdit de parler de république ou de prôner la république, et donc des républicains, même plus modérés, ont commencé à parler de démocratie pour éviter, en fait, l'interdiction. Et donc, on arrive en 1848, février 1848, vous le savez, c'est votre histoire en principe, même si j'imagine que vous n'étiez pas là, mais 1848, donc il y a la Révolution, la monarchie est encore abolie, l'esclavage aussi pour la deuxième fois, en France vous faites ça deux fois, et donc là, il va y avoir des élections. Et là, à ce moment-là, vous avez en fait le même phénomène qu'avec post-Jackson aux États-Unis. C'est qu'en fait, lors des élections de 48, en fait, tous les candidats à peu près vont se dire, même des monarchistes en fait vont se dire pour la démocratie, monarchie démocratique, c'est un concept intéressant. Auguste Blanqui, un socialiste révolutionnaire qui à ce moment-là est en prison, évidemment, comme d'habitude, il constate de sa prison, il utilise le terme caoutchouc, il dit en fait le mot démocratie est devenu un mot caoutchouc et en France en ce moment tout le monde est démocrate, du monarchiste le plus réactionnaire au socialiste le plus révolutionnaire. Et on arrive dans les années 1850, aux États-Unis et en France, j'ai trouvé des exemples de discours pro-démocratiques qui sont en fait associés à la morale, à la volonté de Dieu, des poètes aussi qui parlent de démocratie dans des termes extrêmement élogieux et grandiloquents en évoquant la morale, l'identité nationale et la volonté divine et la raison avec un R majuscule. Donc ça veut dire qu'en 70 ans, donc disons deux ou trois générations politiques, disons on a assisté à un basculement absolument complet du sens normatif du mot, c'est-à-dire c'est un mot totalement négatif qui est devenu le mot le plus positif que vous pouviez trouver dans le vocabulaire politique. C'était même Dieu et la raison. Mais, important, en termes descriptifs, le mot démocratie, même s'il continue à évoquer le pouvoir du peuple de type athénien, en fait, ne décrit plus du tout un régime où les gens prennent leurs décisions ensemble. Ça décrit, en fait, maintenant, c'est synonyme de gouvernement représentatif ou de régime électoral. Donc, il y a eu une double transformation du sens du mot, mais ça a gardé sa référence au peuple. Et c'est pour ça qu'il est utilisé de cette manière. Et donc, d'un point de vue, disons, donc ça, c'est mon travail ou ma réflexion ou mon travail de défrichage ou d'archéologie des mots, de ramener à la surface ces débats de l'époque et ces analyses de l'époque aussi, donc au niveau plus factuel. Au niveau, disons, des conclusions plus politiques, qu'est-ce que moi j'en tire plusieurs choses que je vais partager avec vous maintenant. C'est que en fait, donc, il y a une sorte de manipulation, évidemment. Et je pense que, donc, aujourd'hui, on n'est pas mieux loti qu'en 1830 ou en 1848, quand ces élites politiques récupèrent le mot, s'approprient un mot pour des raisons de manipulation électorale. Et donc, moi, j'en tire la conclusion que, en fait, c'est vraiment pas intéressant de parler, pour le dire poliment, de parler de nos régimes comme des démocraties. Parler de nos régimes comme des démocraties, c'est jouer le jeu, en fait, de personnes qui ont choisi de faire ça pour des raisons, pour des motivations purement de rapport de pouvoir et pas en termes d'honnêteté, disons, intellectuelle. Et donc, moi, j'aime beaucoup plus une autre expression qui a été utilisée à l'époque, d'ailleurs, par ceux qui étaient identifiés comme des démocrates, donc les sans-culottes, les enragés, des journaux vraiment populaires, révolutionnaires, entre autres, mais qui ont été une expression qui a aussi été utilisée par des philosophes comme Spinoza, Montesquieu, Rousseau et d'autres. C'est en fait ce qu'on a comme régime, c'est une aristocratie élective qui se présente comme démocratique, mais en fait c'est une aristocratie élective. Rousseau disait, Jean-Jacques Rousseau, vous avez entendu parler, il disait, il est mort, il disait, il y a trois aristocraties, il y a trois manières de voir l'aristocratie. Il y a dans chaque société ce qu'il appelle une aristocratie naturelle, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont meilleurs que d'autres, au violon par exemple. Moi je suis nul au violon, mais il y a des gens qui jouent bien au violon, c'est des aristocrates du violon. Il y a, donc c'est les talents naturels qui ne sont pas également répartis dans la société. Il y a, d'un point de vue politique, l'aristocratie héréditaire, c'est celle à laquelle on fait référence généralement quand on pense à la noblesse, et donc de père en fils, généralement, des fois les filles sont là, mais c'est plus rare, et il dit, il y a l'aristocratie élective, et Spinoza dit ça, et Montesquieu et tout, et l'aristocratie élective, c'est quand une cité, une communauté, se procède à des élections pour choisir qui gouverne, et c'est nécessairement une minorité. Et c'est une minorité qui est supposément la meilleure des qui est constituée des meilleures personnes pour gouverner. Et donc, c'est un concept aristocratique en termes mathématiques, c'est-à-dire c'est une toute petite clique qui gouverne. Là, en plus, c'est devenu des proportions aberrantes, là, où vous êtes 65 millions, quelque chose comme ça, là, en France, ou je sais pas. Et il y a comme 500 parlementaires, ou à peu près, quelque chose comme ça. Bon. Donc, c'est des proportions complètement folles. Donc, c'est vraiment une nano-élite. Et donc, d'un point de vue mathématique, c'est une aristocratie parce que c'est une toute petite clique. Et d'un point de vue du principe philosophique, ben, il y a une prétention à ce qu'ils sont les meilleurs. J'imagine que les gens qui vont voter, j'imagine que les gens qui vont voter, ils votent pour les personnes qu'ils considèrent les moins pires, j'imagine, là, j'espère, en tout cas, là. Ou non, d'ailleurs, mais le principe, c'est que l'élection doit permettre de sélectionner les personnes qu'on considère les meilleures. Donc, c'est un principe d'aristocratie dans tous les sens du terme. Donc, c'est une aristocratie élective, chapeautée, évidemment, par une monarchie élective. Donc, vous avez ici un président. Nous, on a un premier ministre, mais c'est l'équivalent. Là, la reine Élisabeth II, évidemment, est juste là pour la photo. Mais c'est un président. Vous avez un président électif, ce qui est tout à fait étrange, d'ailleurs. On pourrait imaginer, si on était républicain... un régime où il y a une assemblée nationale avec des commissions parlementaires, par exemple, sur tel ou tel ou tel sujet, puis avec des délégations d'ambassadeurs et d'ambassadrices et tout ça, mais pas de président avec son conseil des ministres qui est à l'extérieur de... C'est totalement bizarre d'avoir un président. Donc, en fait, vous avez coupé la tête du roi Puis vous l'avez remplacé par un président qui fonctionne en fait comme un roi avec son conseil des ministres et ses gardes du corps et dont certains qui sont un peu bizarres, là, des fois le 1er mai, tout ça, bon. Mais... Et évidemment, dans certains pays, c'est même presque un système héréditaire avec les Bush, les Clinton. Nous, ça fait, on a les Trudeau. C'est bon, il y a des pays comme ça où c'est en plus, c'est dans la famille. Donc, c'est des monarchies, des aristocraties électives. Donc, ça, c'est une première conclusion politique, si je peux dire, ou une perspective, disons, plus analytique. La deuxième chose, si vous m'avez suivi aussi, c'est que ce que je propose, c'est que ça doit nous faire prendre conscience en fait que je sais pas ce qu'on vous enseigne à l'école là, j'ai pas été scolarisé ici, mais moi j'ai appris, puis en plus je sais très bien que c'est ce qu'on enseigne puisque même moi j'ai enseigné ça, que en fait l'origine de la démocratie c'est Athènes et que donc il y avait la démocratie à Athènes. Donc, vous voyez un peu à quoi ça ressemble. Des gens avec des toges, là, qui mangent des olives et qui discutent, là, de trucs pendant que les femmes et les esclaves travaillent. Et que les enfants attendent de pouvoir être citoyens. Et les étrangers aussi qui sont à l'extérieur de ça. Bref, il y a beaucoup de monde qui sont à l'extérieur, mais c'est ça la démocratie qu'on nous enseignait. On nous dit que ça, c'est la naissance de la démocratie, c'est à Athènes. Et d'ailleurs, on nous dit que le mot démocratie est athénien, parce qu'évidemment, sans le mot, aucun autre peuple sur la Terre a pu penser à la démocratie avant le grec. Et on nous dit, pour une raison qu'on nous explique pas trop, qu'en fait, pendant 2000 ans, ce régime est tombé en dormance, qu'il y a eu le Moyen-Âge, là, où les gens mouraient de la lèpre en étant mangés par des loups et tout. Et là, après ça, à Boston et à Paris, il y a des gens qui ont réinventé la démocratie. Donc, c'est mes pères fondateurs de tout à l'heure. Mais que c'est la démocratie moderne, parce qu'on nous dit, tu comprends quand même, en France ou aux États-Unis, il y a trop de gens. Et donc, ça peut pas être la démocratie d'Athènes. Mais comme on aime le mot, c'est quand même la démocratie. C'est juste, c'est pas la même démocratie, mais c'est la démocratie pareille et c'est la même filiation. Et donc, évidemment, pour les gens qui ont fait un peu d'histoire du Moyen-Âge, on est supposé de savoir que, en fait, ça, c'est complètement faux. C'est un mythe, évidemment, qu'on nous raconte, qui est un mythe, évidemment, de légitimation, évidemment, de ce discours que nous sommes une démocratie, dans la mesure où le cœur du pouvoir, comme j'essaie de vous le montrer, c'est le Parlement, avec les parlementaires et le président et ses conseillers, et que ça, évidemment, d'un point de vue institutionnel, on sait exactement d'où ça vient, et évidemment, ça ne vient pas d'Athènes du tout, ça vient du Moyen-Âge, 12e, 13e siècle, où les rois de France, d'Angleterre, d'Espagne, de Prusse et d'ailleurs, en Russie aussi, commencent à mettre en place ce qui va devenir les parlements. C'est des assemblées consultatives. Ils convoquent en fait les grands du royaume. Les seigneurs, à l'époque, ont prêté serment. Sous les gens qui ont joué à Donjons et Dragons, vous savez ça. Les seigneurs ont prêté serment au roi. Ils ont prêté serment de deux choses. Généralement, on se rappelle qu'ils ont prêté serment de défendre le roi, mais en fait, ils ont prêté serment de défendre et conseiller le roi. Il y a le serment de conseil. Et le roi, donc, peut convoquer les grands du royaume pour avoir leur conseil. En réalité, il veut pas leur conseil, il veut simplement leur demander de l'aider à lever des taxes et des impôts parce qu'il est sur le bord de la faillite. C'est généralement pour ça qu'il les convoque. Et donc, il y a une sorte de négociation avec les grands du royaume et la couronne à ce moment-là. Pour qu'il consente à aider le roi à lever des impôts. Le roi a besoin des grands... Oh, c'est trop long. Je épargne pourquoi il a besoin des grands du royaume pour lever les impôts, mais juste pour vous dire que les rois à l'époque ont aucune idée qui est dans leur royaume, mais c'est quoi les ressources. Il n'y a pas de statistiques, il n'y a pas de registre de naissance et tout. Ils n'ont aucune idée qu'il y a combien de personnes à Paris ou ailleurs. Et donc, ils ont vraiment besoin de descendre. Et il n'y a pas de bureaucratie. Et donc, ils ont vraiment besoin de descendre vers plus proche, en fait. Et c'est le système pyramidal féodal qui permet d'aller chercher les poules et la farine en bas. Et donc, au fil des générations, si les grands du royaume négocient avec le roi, et il va y avoir des révoltes, et il va même avoir des révolutions, comme au XVIIe siècle, les Anglais ont été les premiers, comme vous le savez sans doute, à décapiter le roi Charles Ier, à fonder une république. Donc, désolé, c'est pas vous. Mais après ça, ils ont restauré la monarchie, qui se maintient encore jusqu'à aujourd'hui. Et donc, en fait, la vraie origine de notre régime, de notre aristocratie élective, c'est pas du tout Athènes, c'est vraiment le Moyen-Âge. Nous sommes, en fait, les héritiers. En fait, c'est la politique médiévale qui continue sous d'autres formes aujourd'hui. On n'a plus d'aristocrates héréditaires, sauf au Sénat, dans certains cas, mais Et donc, les armures et les cottes de mailles ont été remplacées par les vestons-cravates, mais c'est la même logique, et en fait, c'est la même institution. Et c'est d'autant plus visible chez nous, par exemple, où il n'y a pas eu de Révolution française, puisqu'on n'est pas en France, et au Canada, où nous avons en fait la Chambre des communes et le Sénat. C'est les Commons et le Sénat, ça vient du régime britannique. Le Canada n'a pas fait d'indépendance comme telle ou de révolution, et donc nous sommes en fait... notre chef d'État, c'est la reine Élisabeth II, et nous sommes vraiment... Donc, il n'y a rien à voir avec la Grèce, là. C'est vraiment... Nous sommes une création du Moyen-Âge, si on remonte vraiment l'histoire jusqu'à son début. Donc, première conclusion. Deuxième conclusion. Première conclusion, c'est qu'on est une aristocratie élective, on n'est pas une démocratie. La deuxième, c'est qu'en fait, le mythe d'Athènes est aussi un mythe qui travaille notre imaginaire politique pour essayer de nous faire croire qu'en fait, notre régime est plus proche des intérêts du peuple qu'il ne l'est en réalité. Et simplement, pour une petite anecdote d'histoire culturelle, en fait, Athènes va commencer à devenir un modèle au niveau culturel, littéraire, de référence au niveau de l'histoire en Occident, justement vers 850, en fait, va remplacer en fait Sparte et Rome quand justement le mot devient positif. Et troisième conclusion que j'aimerais partager avec vous, donc ça c'est dans comme on est dans la librairie et que mes éditeurs m'aident dans mon voyage, je vais faire un peu de publicité, mais j'imagine que vous pouvez aussi le trouver en bibliothèque ou vous pouvez essayer de le voler, je sais pas, mais en tout cas il y a d'autres livres, vous pouvez le demander en cadeau. Dans un autre livre, j'ai continué la réflexion, mais de manière plus conceptuelle, si je peux dire, même s'il y a beaucoup d'exemples empiriques, c'est comme ça que je travaille, sur la question de la peur du peuple. Et je pense qu'en fait, la question de la démocratie, telle qu'elle est formulée par nos élites, elle cache en réalité, même si le discours de la démocratie est un discours qui semble en fait favorable au peuple, elle cache quelque chose qui est fondamental dans justement qui est au fondement de nos régimes, de nos aristocraties électives, et que j'ai évoqué rapidement quand j'ai parlé de le mot démocratie comme un mot péjoratif, c'est qu'en fait, au fondement de l'instauration de nos régimes par l'élite, même si le peuple a été utilisé dans les guerres civiles, il était utilisé des deux côtés, évidemment, il y avait une partie du peuple qui se battait pour la couronne et l'autre pour les républicains, et d'autres pour eux-mêmes, mais eux, ils ont été écrasés ou oubliés. Il y a en fait fondamentalement une peur du peuple. Et le peuple, la peur du peuple, c'est une double peur. C'est l'élite qui a peur du peuple et c'est le peuple qui a peur de l'élite, en fait. Donc, la peur du peuple, c'est aussi le peuple qui a peur. Et c'est ce que j'ai essayé de résumer sous une sorte de tension politique ou de lutte politique que j'ai essayé de résumer peut-être de façon un peu prétentieuse avec deux concepts que j'ai empruntés à la psychologie qui est l'agoraphobie politique et l'agoraphilie politique. Parce que cette peur du peuple, elle est spécifique, c'est l'agoraphobie politique. J'ai essayé d'utiliser le terme agoraphobie d'un point de vue politique pour essayer de dire, en fait, les élites ont peur quand le peuple se réunit dans la rue, pour le dire le plus rapidement possible, quand le peuple s'assemble et quand le peuple essaye de prendre ses décisions lui-même, de gérer ses affaires publiques, de parler lui-même sans représentant élu ou représentante, là se met en place, en fait, il y a une réaction de la part de l'élite de peur ou de mépris ou de haine, d'ailleurs, c'est l'agoraphobie, ça évoque la peur, mais il y a le mépris et la haine aussi, et de lutte. Et donc, cette peur, elle est fondée sur des idées qui paraissent rationnelles, justement, c'est que, en fait, une bonne partie de l'élite et une partie du peuple, d'ailleurs, est convaincue que le peuple assemblé, en fait, est incapable de raison politique, est capable de raisonner correctement sur le bien commun, sur les grands principes, sur les enjeux fondamentaux. Et donc, en fait, le peuple est fondamentalement irrationnel d'un point de vue politique. Et donc, comme il est irrationnel, il est donc émotion, passion, et donc il est soumis à l'influence des démagogues. Les démagogues, c'est ceux qui sont des bons parleurs et qui flattent le peuple dans le bon sens et qui le manipulent. Et aussi, le peuple, il est factueux, c'est-à-dire que quand il se réunit en assemblée, c'est chacun pour soi ou chacun pour sa catégorie ou pour sa classe, mais il ne vient pas avec une volonté de vraiment réfléchir ensemble pour le bien commun, mais chacun essaye de tirer son épingle du jeu. Et évidemment, l'élite prétend qu'elle est rationnelle, c'est-à-dire qu'elle comprend le bien commun, qu'elle est au-dessus des enjeux catégoriels et qu'elle est vraiment capable de réfléchir au bien commun, et évidemment qu'elle ne procède pas par démagogie. Et donc, à cette agoraphobie politique, j'ai opposé donc l'agoraphilie politique, c'est-à-dire l'amour du peuple de se réunir ensemble, de voir le peuple réuni ensemble en assemblée, dans la rue, sous forme émeutière aussi. Je fais la distinction entre les assemblées du peuple, disons, délibératives et les émeutes aussi, parce que ce que l'élite a peur aussi, c'est quand le peuple s'assemble, ils arrêtent de parler puis ils commencent à tout casser, ce qui arrive souvent d'ailleurs. Il y a des bonnes raisons pour ça, d'ailleurs. Je pose à ça l'agoraphilie politique, qui, en fait, renverse les arguments un par un, qui dit, en fait, non, ben en fait, l'élite politique, elle n'est pas du tout raisonnable et rationnelle, puisqu'en fait, sa principale motivation, c'est une émotion très forte qui, en fait, le désir de domination, le désir de pouvoir, le désir de gloire. Et je le dis presque en tout respect, je pense, en fait, il faut une force émotionnelle et passionnelle extrêmement puissante pour qu'un individu réussisse à devenir, par exemple, président de la République en France. C'est des années, des années, des années, des années, des années d'efforts. Vous pouvez pas envoyer votre CV, là, puis attendre qu'on vous appelle, puis on vous dit, ah, ben oui, on vous a sélectionné, vous êtes président. Non, c'est pas comme ça que ça marche. Et donc, pour ça, il faut vraiment une force émotionnelle extrêmement puissante, et cette force émotionnelle, c'est l'émotion qui les habite, c'est une sorte d'arrogance, de désir, de puissance, de pouvoir, de gloire et de visibilité. Et donc, alors que l'élite dit que le peuple est irrationnel, je pense que c'est l'inverse, c'est l'élite qui est fondamentalement irrationnelle, parce qu'il faut toute cette émotion, ce qu'on appelle en français cette soif du pouvoir. L'agoraphobie reproche au peuple d'être soumis à la démagogie, alors que le régime électoral lui-même est par définition un régime qui favorise la démagogie, c'est-à-dire une campagne électorale, c'est une campagne où vous vous promenez de place en place et vous dites que vous êtes le meilleur, que les autres sont nuls et que vous allez réaliser telle affaire pour telle chose pour le peuple. Donc ça, c'est la démagogie. Et maintenant, vous avez même des équipes de marketing qui vous disent quelle cravate porter, quelle robe porter, quel mot, élément de langage utiliser, etc. Donc, en fait, le régime électoral ne prévient pas du tout la démagogie. En fait, il l'encourage et l'amplifie. Et finalement, l'agoraphobie reproche au peuple d'être factieux, en fait, de ne penser qu'à ses intérêts spécifiques, alors qu'en fait, le simple fait d'avoir des gouvernants et des gouvernés crée déjà de fait dans une société deux factions, les gouvernés et les gouvernants. Et donc, malgré le concept, le slogan de liberté, égalité, fraternité, il y a en tout cas certainement pas d'égalité quand il y a des gouvernants et des gouvernés. Par définition, il n'y en a pas. Puis, on pourrait parler de la liberté puis de la fraternité après. Donc, j'ai presque terminé. Il me reste quarantaine de minutes. Puis après, ça sera la conclusion. Donc voilà. Donc je vous ai vraiment brossé à grands traits, comme il m'avait été demandé, disons le travail que j'ai essayé de mener dans le premier livre, donc Démocratie, histoire politique d'un mot. Je vous ai donné une petite ouverture sur l'autre livre qui le suit, qui est pas une suite comme telle, mais qui le suit, disons dans ma réflexion, qui est La peur du peuple. Où donc je détaille aussi des enjeux comme l'agoraphobie, comme peur du peuple assemblé, mais peur du peuple émeutier. D'un point de vue conceptuel, c'est pas très important, mais je distingue entre le démos et la plèbe, mais c'est le démos, c'est comment je nomme le peuple assemblé. Le peuple, là, ça peut être 10, 15, 20 personnes, d'ailleurs, ça n'a pas besoin d'être... Au Moyen-Âge, quand il y avait des assemblées d'habitants, ils disaient il suffit d'avoir 10 personnes pour former un peuple. Donc, et chez les juifs plus conservateurs, il faut 10 hommes pour pouvoir prier. Donc, on n'a pas besoin d'être la nation française dans le stade de France pour être le peuple. Et scander des slogans racistes et homophobes, c'est pas nécessaire. Donc, ils ont aussi peur que le peuple soit un peuple émeutier, que quand le peuple se rassemble, il y a une émeute. Et donc, pour le dire en toute sincérité, en fait, ils ont tout à fait raison. Parce qu'effectivement, ça arrive. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'il y a des lois sur les attroupements illégaux. Je sais pas vos lois sur les attroupements illégaux, à quoi ils ressemblent maintenant. Mais souvent, les lois sur les attroupements illégaux, là, je vous ai parlé des juifs et des habitants et des peuples de 10, là. Mais sur les attroupements illégaux, généralement, c'est 3 et plus. Il y a des pays où c'est 2. Donc, c'est sûr que c'est difficile C'est sûr qu'il faudrait vraiment un petit peu d'arrogance pour dire un attroupement illégal, c'est une personne, mais ça, on appelle ça du terrorisme. Ou de la radicalisation. Mais donc, deux ou trois et plus, là, l'État, dans sa loi, a peur de ça. C'est déjà un peuple émeutier. Et il a raison, en fait. Il a raison. Et d'ailleurs, il a raison parce que pourquoi, en fait, le peuple ne serait pas émeutier. Moi, ma question, souvent, quand on me demande, oui, mais comment on explique les émeutes? Moi, ma question, c'est, en fait, comment on explique qu'il n'y en a pas plus souvent, en fait, des émeutes? Vous savez, là, maintenant, j'imagine, vous commencez à comprendre, là, qu'il y a deux femmes, une femme tous les deux jours qui se fait assassiner en France. Si vous ne le savez pas encore, c'est que vous êtes vraiment isolé. Mais il y a pas d'émeute pour ça, c'est bizarre là. Il y a plein de communautés quand ils se font tuer des gens, ils détruisent tout quoi. Donc moi je pense qu'il devrait avoir beaucoup plus d'émeutes. Et l'élite a raison d'avoir peur des émeutes. Et d'ailleurs l'élite fait d'ailleurs des règlements spécifiques pour certaines catégories particulièrement menaçantes. Donc à l'époque de l'esclavagisme par exemple, le code noir par exemple interdisait spécifiquement les rassemblements d'esclaves et surtout les rassemblements d'esclaves entre deux propriétaires différents parce que là ils vont prendre des faux et des flambeaux et des fourches et ils vont tuer les maîtres. Il y a eu des règlements interdisant les rassemblements de femmes pendant la Révolution française. Évidemment, les femmes n'avaient pas le droit de porter les armes parce qu'on disait que c'est dans la nature, mais pour que ça soit vraiment clair, la nature, on le mettait dans la loi quand même. Les syndicats maintenant évidemment ont le droit de se rassembler, de manifester, mais pendant longtemps ces manifestations étaient pas encadrées par la loi. Et donc en fait, il y a une peur réelle que le peuple assemblé devienne un peuple émeutier, mais je pense que cette peur, elle est légitime si vous m'entendez bien, c'est-à-dire que il y a des raisons, je dirais, objectives pour des gens pour s'ils se réunissent ensemble en fait pour réaliser qu'ils sont pas contents et s'ils sont pas contents de passer à l'action. C'est le concept des réunions non mixtes, donc vous avez des réunions non mixtes de toute nature. Un syndicat, c'est évidemment une organisation non mixte. On n'invite pas le patron, j'imagine, je sais pas. Les féministes peuvent avoir des réunions non mixtes, etc. Et donc, dernière chose peut-être, pour terminer, toujours faire plaisir à mon éditeur et à moi aussi un peu quand même. Dernière chose que j'ai oublié de vous mentionner, c'est que je reviens à Athènes. C'est aussi ce que j'essaie de montrer dans le livre La peur du peuple et dans d'autres travaux, c'est qu'en fait cette question du peuple assemblé, de la peur du peuple assemblé, ce n'est pas une question qui ne concerne que l'Occident. Et je donne plusieurs exemples dans le livre La peur du peuple d'assemblée et d'agoraphobie politique, si vous m'avez suivi, d'exemples d'agoraphobie politique qui concernent pas seulement des situations en Occident, mais aussi ailleurs, comme en Afrique, par exemple. Je parle d'un exemple qui me séduit beaucoup, si on peut dire ça comme ça, même s'il est tragique, des femmes Igbo au Nigeria, qui avaient en fait des assemblées non mixtes de femmes, qui participaient aussi aux assemblées de villages mixtes, mais qui avaient leurs assemblées non mixtes de femmes. Ils étaient sous juridiction. C'est une sorte de protectorat colonial britannique dans les années 20 et qui à un moment donné ont commencé à attaquer les bâtiments administratifs britanniques suite à une rumeur là, de nouveaux taxes sur quoi elles travaillaient dans les champs et qu'elles vendaient au marché. Et donc les femmes, elles organisaient des assemblées non mixtes. Et il y a eu en 1929 donc ce que les Britanniques ont appelé la guerre des femmes quand ils ont été attaqués en fait par des milliers de ces femmes. Et évidemment ce qu'ils ont fait après c'est qu'ils ont interdit aux femmes de tenir leur assemblée. Et nous au Québec on commence à savoir ou on sait ou de toute façon ceux qui étaient là avant le savent que avant que donc la monarchie française envoie des colonisateurs dans ce qui est connu comme étant le Québec maintenant, ils fondent la Nouvelle-France. Il y avait donc évidemment des gens qui habitaient là, ceux qui ont été appelés les Indiens parce qu'ils pensaient qu'ils arrivaient en Inde. Et donc c'est pas vrai pour toutes les Amériques. Il y a les Mayas par exemple qui étaient des sociétés très hiérarchiques, mais sur la côte est américaine entre autres, puis d'autres communautés aussi comme les Mapuches tout au sud, mais sur la côte est nord-est américaine, les Wendat, les Mohawks, les Inuits et d'autres, les observateurs, quelques observatrices, ont constaté rapidement, y compris des jésuites et d'autres, qu'en fait, ces communautés vivaient de manière démocratique. Ils n'utilisaient pas le terme, mais en fait, ils étaient toujours en train de délibérer, de discuter sur tout. Les fameux chefs avec le plus de plumes, en fait, c'était plutôt des animateurs culturels. C'était pas des chefs comme on entend le terme chef en Occident. Ils n'avaient pas de pouvoir coercitif. Ils ne pouvaient pas comme imposer leurs décisions. Ils n'avaient que le pouvoir de la voix. Il n'y avait pas de police, il n'y avait pas de tribunaux. Il y avait de la violence dans ces communautés-là, mais il n'y avait pas ce pouvoir politique. Et donc ça continue. Mais donc ce que ça dit, pourquoi je vous parle des Igbo et des Wendat et des Mohawk par exemple, c'est par rapport à ce qu'on nous a appris à l'école. La démocratie évidemment a été inventée partout. Elle a eu des formes différentes. Il y a eu des formes où en fait il n'y avait pas d'esclaves et les femmes étaient plus égalitaires et participaient aux décisions et même les enfants. Il y a eu des exemples où il y avait des esclaves et etc. Il y avait des exemples où il y avait de propriété privée, pas de propriété privée, c'était agricole, c'était pas agricole, c'était chasseur-cueilleur etc. Mais la démocratie comme on l'entend, quand on pense à Athènes, c'est-à-dire être réunis ensemble et prendre nos décisions ensemble et agir ensemble, c'est la pratique, je dirais presque de base de l'humanité. Elle a été utilisée partout et si elle a cessé dans certains endroits, c'est beaucoup plus parce qu'elle a été détruite par des puissances destructrices que parce qu'elle s'est effondrée d'elle-même. Et dans le cas, par exemple, de l'Amérique du Nord, avec un ami, Benjamin Pilet, qui s'y connaît beaucoup plus que moi sur le sujet et moi, qui vient de finir une thèse, en fait, là-dessus, Benjamin Pilet en sciences politiques à l'UQAM, et moi, en fait, on a colligé 6 entretiens, donc c'est pas nous qui parlons dans ce livre, c'est des voix autochtones. Roxane Dunbar Ortiz, Véronique Hébert, Gord Hill, Frida Husson, Kaolani Kouanoui, Clifton Nicolas et Togesti. Et donc ça, c'est des expériences autochtones. On a appelé ça l'anarcho-indigénisme. C'est un concept qui a été inventé par des Mohawks vers 2005. L'anarcho-indigénisme, c'est un concept qui s'adressait aux non-autochtones, pas aux autochtones, aux non-autochtones, et qui disait portez attention à ce que les groupes radicaux traditionnalistes autochtones font en ce moment. Et vous allez voir, en fait, qu'il y a beaucoup d'éléments là-dedans qui évoquent l'anarchisme, c'est-à-dire c'est un refus de collaboration avec l'État. Les Mohawks au Québec, par exemple, ont un taux d'abstention électorale de 98,5%. C'est, à ma connaissance, le record mondial. Ce sont des abstentionnistes presque unanimes. Donc, non collaboration avec l'État, qui est un État colonial, dans ce cas-là, évidemment. Pratique délibérative de prise de décision non hiérarchique et action directe, donc les blocages contre les pipelines, par exemple. Et donc, dans l'ouvrage avec Benjamin, on a recueilli leurs voix, leurs témoignages, leur analyse et leur expérience pour montrer, en fait, que, contrairement à ce qu'on entend des fois, la démocratie directe, non seulement elle est possible aujourd'hui, évidemment, dans les mouvements sociaux ou ailleurs, mais elle n'a pas été inventée à Athènes, elle a été inventée partout. Et il y a des endroits où encore elle est encore pratiquée dans cette tradition, comme chez les communautés autochtones d'Amérique du Nord. Voilà, j'arrête là-dessus. Je suis vraiment désolé, j'ai trop parlé. Alors là, je ne sais pas comment ça fonctionne. Il y a Gabriel qui est en arrière. Si vous avez des questions, ça peut être des commentaires ou des réflexions aussi, hein, je ne sais pas, ça n'a pas besoin d'être des questions aussi. Je peux peut-être avoir des réponses aussi, je ne sais pas. Hein.
Bonsoir, une toute petite question, mais c'est peut-être de ma faute, j'ai peut-être pas tout suivi. Qu'est-ce que vous répondez à Chouard, sur lequel on a, enfin j'ai mon avis en tout cas, mais vis-à-vis de justement la démocratie à Athènes, pas tant sur sa stratégie politique sur lequel, enfin peu importe, qu'est-ce que répond à Chouard qui justement lui dit qu'on n'est plus en démocratie à Athènes, mais est-ce qu'il la mythifie pas trop et comment déconstruire ce concept-là à part le fait qu'il y ait déjà eu plein d'autres démocraties ailleurs qu'à Athènes?
J'ai écouté des vidéos de Chouard, je sais pas ce qu'il dit, je me rappelle pas ce qu'il dit exactement sur la démocratie athénienne, mais en tout cas je lui répéterai ce que je viens de dire. Je sais pas ce que vous voulez que je dise d'autre, mais est-ce qu'il dit quelque chose de spécifique sur désolé, je pense qu'il faut prendre le micro parce qu'il y a des enregistrements là, à moins que vous ne vouliez pas être enregistré, je pense.
C'est bon. Bah déjà merci beaucoup pour votre travail, c'est super. Est-ce que vous pouvez nous donner un peu votre éclairage sur la situation actuelle avec tous les mouvements dans le monde où ça part un peu en vrille partout, sur ce que vous en pensez?
Je pense que ça part en vrille un peu partout dans le monde et qu'est-ce que vous... Ben... Je suis pas sûr de comprendre votre question. J'ai des collègues, pas des collègues directs là, mais il y a des universitaires, des...
Alors vous avez parlé
que... ce que j'allais dire, mais oui.
Vous avez parlé que le peuple, il attaque justement l'aristocratie, tous ces gens-là.
Oui.
À votre avis, en ce moment, c'est une période où tous les peuples vont se révolter, vont attaquer cette aristocratie un peu partout, ou c'est juste des événements très ponctuels, indépendants?
Honnêtement, vous me posez une question qui sort totalement de mon champ de compétences, à la fois universitaire et militant. J'ai, par exemple, moi, ce que je sais de Hong Kong, par exemple, je lis ce qui se passe à Hong Kong dans un journal québécois qui n'a pas de correspondance à Hong Kong. Donc, je pense que je vois ce qui se passe à Hong Kong un peu, mais là, moi, je ne vais pas vous dire. Et la même chose pour le Chili, je parle pas espagnol, je suis jamais allé au Chili, au Liban, donc je vois bien, comme vous et comme d'autres personnes, que ça bouge à plusieurs endroits, mais à moins de lire vraiment comme les femmes Igbo, j'ai quand même passé des journées à lire sur les femmes Igbo, donc je me permets d'en parler, même si je suis jamais allé là-bas et que je suis pas une femme Igbo, comme vous en doutez, mais je serais très mal à l'aise là de commencer à partager mon... Je suis désolé, hein, c'est pas très super, hein. Honnêtement, je vois ce que vous voyez, je pense. Peut-être même vous connaissez plus que moi des certaines situations, je sais pas.
Ouais. Moi, c'est... je fais un commentaire plutôt.
Ah oui.
Non, alors, je suis en complet désaccord avec ce que tu as dit, en fait.
Sur Hong Kong?
Hein?
Sur Hong Kong?
J'ai pas compris.
Sur Hong Kong? Non? Non, vas-y.
Bon. Ok, déjà, tu as fait tout ton... Pratiquement, bon, c'était le sujet de la conférence, donc tu as fait tout ton discours sur la démocratie. Et à la fin, tout à la fin, tu nous parles d'anarchisme. Alors, on sait pas d'où ça sort, t'as le terme qui sort anarchie. Donc, je peux pas imaginer, comme t'es chercheur, c'est ça, ou... que tu n'arrives pas à faire la différence entre deux mots comme anarchie et démocratie, d'autant qu'ils ont à peu près la même formation.
Oui.
Voilà. Donc, si on regarde la démocratie, c'est quoi? C'est le pouvoir du peuple,
oui.
N'est-ce pas, hein? Et l'anarchie, c'est l'absence de pouvoir, qu'on va dire. Hein. Ouais. Voilà. Donc là, déjà, tu fais un raccourci qui pour moi est malhonnête, forcément, parce que t'as les capacités intellectuelles pour comprendre ça, donc à mon avis, t'es malhonnête. Mais c'est hyper important parce qu'à la fin il place le mot anarchie en fait pour se donner une sorte de légitimité.
Non, pas de légitimité, mais en fait je vais vous expliquer après en détail l'anarcho-ingénisme, mais c'était pas pour me donner une légitimité. Je pense pas que parler d'anarchie ça donne beaucoup de légitimité généralement, mais allez-y.
Pour qu'on me coupe la parole, alors ok, ben, j'ai plus rien à dire, alors t'inquiète pas. Je suis pas agressif, hein, je parle, hein, y a pas de souci. Hein. Moi, j'agresse personne. Hein.
Mais je comprends pas, c'est quoi votre souci à la fin?
Hein? D'accord. Donc, alors, par exemple, je peux te parler de... Donc, toi, ton exemple, par exemple, sur la démocratie, tu dis qu'elle était véritable en Grèce. Alors, comment on sait bien qu'il y avait d'un côté les esclaves?
Mais je l'ai dit.
Si, à Athènes, je sais pas quoi. Enfin, tu dis que c'était le bon modèle et tout. Ça faisait partie des démocraties anciennes qui ont été en gros quoi, hein, tu les associes aux anciennes démocraties dont tu parles, donc indigènes, et tu dis que c'est un modèle qui aurait été subverti quoi. Donc faut savoir qu'à cette époque-là, à Athènes et en Grèce, il y avait des citoyens comme en France et d'autres qui étaient esclaves. Hein.
Mais je l'ai dit. J'ai voilà. dit les
non mais esclaves. Tu l'associes aux j'ai indigènes dit, alors que moi dit... je l'associe absolument pas à ce qui se passe chez les indigènes par exemple.
Et non, ok, bah, si. Tu me laisses préciser parce que ouais. Je pense que ça va peut-être aider, puis après ça tu seras toujours pas d'accord avec moi, c'est correct, mais c'est pas grave là. Donc je pense que ma présentation n'était pas sur la démocratie à Athènes. Alors, excusez, mais il me semble quand même que j'ai dit qu'il y avait des esclaves, que les femmes participaient pas, que les enfants participaient pas tant qu'ils n'étaient pas adultes. et que les étrangers participaient pas, et que ceux qui participaient c'était des hommes qui étaient d'origine grecque. Il me semble, je l'ai dit, mais c'est vrai que je parle vite et j'ai un accent québécois, donc peut-être t'as pas compris. Mais et donc à la fin, ce que je disais, c'était que, avec les femmes Igbo aussi dont t'as pas parlé, c'est que je disais que contrairement à ce qu'on nous enseigne à l'école, et que moi j'ai déjà enseigné dans mes classes et que je n'enseigne plus, c'est qu'en fait on nous dit souvent que la référence, le modèle de la démocratie, le lieu de naissance, c'est Athènes. C'est ce qu'on nous enseigne. Et moi, je dis, moi, je suis contre cette idée. Je constate que c'est un mythe et que à Athènes, il y avait 7 pratiques démocratiques qui étaient associées à la démocratie, parce qu'en plus, le mot démocratie est un mot grec. Je vais revenir à l'anarchie dans quelques instants. Et je dis, si on s'intéresse à d'autres choses qu'au modèle grec, on va trouver d'autres pratiques où les gens prennent leurs décisions ensemble. Et donc là, j'ai donné l'exemple des femmes Igbo dans leur assemblée de femmes et leur assemblée de villages. J'aurais pu parler des villages, des communautés d'habitants au Moyen-Âge. Et j'ai fait un saut et j'ai parlé des autochtones d'où je viens, de la terre d'où je viens, où en fait, dans les pratiques traditionnelles de ces autochtones, il y a des assemblées délibératives. Il y en avait avant que les Français arrivent et que les Anglais les détruisent, mais il y avait ça. Et je dis ça, ça ressemble à quelque chose comme de la démocratie, parce qu'ils se réunissaient ensemble, ils prenaient leurs décisions ensemble. Sauf qu'on ne nous l'enseigne pas à l'école, parce qu'on est obsédé par le mythe d'Athènes. C'est ce que je disais. Moi, je suis pas obsédé par le mythe d'Athènes, c'est notre éducation et la façon. Et pourquoi j'ai utilisé le mot anarcho-indigénisme? C'est parce qu'en fait, un Mohawk, un intellectuel Mohawk, ça n'a pas l'air de t'intéresser du tout, hein, mais je continue quand même. Ben, je sais pas, parce que tu fais des faces bizarres, mais... Ben non, mais je parle pas comme ça à mes élèves, je parle comme ça à toi. C'est que t'as l'air de faire des faces bizarres, mais je te connais pas, donc peut-être ça t'intéresse. Mais parfait, bon ben c'est super, j'ai mal interprété, c'est correct. Mais donc l'anarcho-indigénisme, c'est pas nous qui avons inventé le concept. C'est un concept qui a été inventé, c'est en anglais. Anarcho-indigénisme, ça change rien, qui a été inventé par un intellectuel, un politologue, un Mohawk, donc de la nation Mohawk, en 2005 dans un séminaire de recherche. C'est Taiyaki Alfred, et à l'époque, en 2005, comme on se rappelle, il y avait le mouvement altermondialiste, et lui, il voyait dans le mouvement altermondialiste des pratiques anarchistes, et il voulait entrer en dialogue avec ces anarchistes dans le mouvement anarchiste, dans le mouvement altermondialiste, et ils ont proposé le concept d'anarcho-indigénisme, que j'ai défini très rapidement en 3 principes, c'est les siens. Il dit, c'est non-collaboration avec l'État, pratique délibérative, donc c'est de la démocratie directe. Il y a des anarchistes qui disent qu'ils font de la démocratie directe dans leur processus de prise de décision, les anarchistes disent ça, et action directe. Et je connais la distinction, comme toi, entre démocratie et anarchie, mais je parlais de ce concept-là et j'attirais votre attention sur des réflexions d'autochtones. Si elles vous intéressent pas, c'est correct. Il n'y a aucune raison de s'y intéresser. Et quand vous regardez et quand vous écoutez les communautés anarchistes qui militent et qui s'organisent en principe sans hiérarchie et sans chef, même si évidemment des problèmes dans les communautés anarchistes, mais qui prônent l'anarchie, souvent chez les anarchistes, vous entendez parler de démocratie directe. Donc les anarchistes eux-mêmes disent, nous pratiquons la démocratie directe, la vraie démocratie, parce qu'en fait, on s'organise ensemble pour parler. Et donc la démocratie et l'anarchie, pour moi, ce ne sont pas deux concepts totalement opposés. Il y a une différence entre démocratie et anarchie. Et pour moi, la démocratie, ça, j'imagine que c'était clair, c'est pas le régime parlementaire. La démocratie, c'est là où le peuple décide. Et pour moi, l'anarchie dans la philosophie politique, dans la tradition de la philosophie politique, c'est considéré comme le chaos et un système sans gouvernement. Et moi, je considère qu'en fait, l'anarchie et la démocratie, c'est deux systèmes où les gens essaient de gouverner, de s'auto-gouverner ensemble. L'autogestion est un autre terme qui évoque cela. Mais dans la démocratie, généralement, on fonctionne au vote à la majorité. Pour faire une distinction conceptuelle, on fonctionne au vote à la majorité. Et chez les anarchistes, on essaye d'atteindre un consensus. C'est ma distinction que je fais entre les deux régimes.
Oui. Alors, tu as bien parlé de la manière dont les élites se sont appropriées le terme de démocratie pour le renverser au fil de l'histoire, mais je me demandais qu'en est-il de la manière dont le peuple s'est approprié le mot. Et si je me pose cette question-là, c'est parce qu'en ce moment, aujourd'hui, avec le néolibéralisme, on a beaucoup cette forme de renversement du langage. On parle par exemple de novlangue néolibérale, c'est-à-dire la manière dont les élites utilisent un mot pour décrire son contraire et donc empêcher le peuple de se l'approprier. Et je me demandais si dans une forme d'agoraphobie justement, il n'y avait pas eu ce processus-là pour le mot démocratie.
Comment le peuple s'est approprié le mot?
Oui.
Aujourd'hui?
Non, dans le passé. Et
est-ce que justement, dans le passé, la stratégie de parler de démocratie pour les élites n'a pas été issue d'une volonté d'empêcher le peuple de se saisir de ce mot-là?
Ça, je peux pas. Je sais pas. Mais non, je pas. Non, parce que le mot était vraiment peu utilisé. Mais par exemple, pendant la Révolution française et la guerre d'indépendance aux États-Unis, les mouvements populaires, si on peut les appeler comme ça, avaient un terme qui est tombé en désuétude, ou en fait qui a même un autre sens maintenant. Il s'appelait patriotes. Mais le sens aujourd'hui a complètement un autre sens. Mais les patriotes, c'était ceux qui se battaient pour la patrie ou le pays. Le pays aussi avait un autre sens. Le pays, généralement, c'était ta région. Tu venais du pays. On disait même tu es mon pays, c'est-à-dire tu es mon ami de village ou de vallée. Il y avait la notion de liberté qui était très importante. Et dans quelques journaux populaires, ils commençaient à voir l'utilisation du mot démocratie dans un sens, disons, positif dans des mouvements populaires. Mais il était vraiment peu utilisé dans des chansons populaires, disons. Aujourd'hui, mais il faudrait faire des sondages, en fait, pour voir moi, je peux pas dire qu'est-ce que vous pensez du mot démocratie, là. Si je commence à dire qu'est-ce que le peuple, vous allez me dire, mais non, mais moi, c'est pas ça que je pense, puis moi non plus, donc je vais être pris en défaut. Mais il faudrait faire un sondage. Mais moi, c'est intuitif, hein, mais j'ai l'impression que cette récupération par les élites, ça a eu pour effet tendanciel, disons, de rétrécir notre imaginaire politique et de penser qu'en fait, ce qui est possible comme démocratie aujourd'hui, c'est le régime parlementaire, parce qu'on nous dit que la démocratie moderne, c'est ce qu'on a aujourd'hui, c'est ce qui est possible avec nos grandes nations et nos grands pays. Cela dit, je pense que, et vous le savez, j'imagine, beaucoup de gens ne sont pas dupes, et c'est ce que montrent par ailleurs des sondages, pas sur le sens du mot démocratie, mais sur le respect que les gens portent aux institutions ou aux élites politiques. En fait, c'est souvent bas. L'abstention est un signe de désintérêt ou de méfiance envers le système. Je pense qu'il y a beaucoup de... Je ne sais pas c'est quoi les sondages ici, mais nous, par exemple, il y a des sondages à chaque année sur la perception que la population a du respect par rapport à certaines professions. Donc, les professions qui sont les plus respectées, c'est infirmières et pompiers, 98% à peu près, tout le monde est pour les infirmières et les pompiers. Puis s'ils sortent ensemble en plus, c'est romantique. Et puis après ça, ça chute assez rapidement. Nous, les profs d'université, on n'est pas très bien cotés, les journalistes non plus, mais les policiers, à un moment donné, il y a quelques années, au Québec, c'était 8%. Et en dessous, je pense qu'il y avait les vendeurs de voitures usagées. Mais maintenant, ils sont montés à 15%. Donc, 15% de respect pour l'élite politique, c'est quand même pas super fort. Donc, je pense que les gens sont pas dupes non plus, mais c'est ça.
Moi, j'avais une petite question, parce que tu parles beaucoup de l'élite élective, et t'as balayé d'une main, du coup, l'hérédité, qui, en fait, quand même a un pouvoir certain. Bon, je connais plus la France qu'autre. Mais il y a quand même l'hérédité qui a un certain pouvoir dans nos pouvoirs. Je parle plus de capitalisme. Je sais pas si du coup c'est quelque chose auquel tu t'es intéressé, mais je trouve que t'es passé très vite sur l'hérédité et que quand même c'est un pouvoir qui est quand même bel et bien en place dans nos sociétés actuelles. C'est-à-dire que du coup par l'hérédité, par l'héritage, par que ce soit culturel ou économique. Ce pouvoir héréditaire existe bel et bien toujours, il est protégé par le politique aussi également, et par nos systèmes politiques actuels. Donc voilà, c'est pour voir si du coup ce pouvoir héréditaire était aussi quelque chose d'important, quelque chose qui devait être considéré dans nos sociétés.
Oui, quand je faisais référence à... En fait, quand je distinguais les trois sortes d'aristocratie, je faisais référence explicitement à Jean-Jacques Rousseau, qui a ce triptyque-là de naturel avec... J'ai parlé du violon, l'hérédité, mais lui, quand il parle d'aristocratie héréditaire dans ce sens-là ou dans ce contexte-là, c'est vraiment les nobles qui gouvernent, en fait. Mais par ailleurs, dans l'autre bouquin sur la peur du peuple, je consacre beaucoup plus de place à définir cette notion de monarchie, d'aristocratie élective. Et là, effectivement, il y a avant de dire ça, c'est... En fait, mes ouvrages sont vraiment des ouvrages plutôt d'analyse politique, si je peux le dire comme ça. Et j'ai vraiment pas de prétention, et je pense que je suis pas nécessairement qualifié proposer des... Je travaille pas vraiment sur des analyses, disons, anticapitalistes ou du capitalisme financier ou des élites financières. J'ai milité dans des groupes anticapitalistes, mais c'est pas là-dessus que je travaille. Cela dit, ce que... la manière que je précise et je développe la notion d'aristocratie élective dans l'autre livre, La peur du peuple, c'est je dis qu'il y a cette fusion très souvent entre l'élite politique et l'élite économique ou financière qui viennent soit de grandes familles, soit ils ont réussi par eux-mêmes, entre guillemets, là, comme on dit, mais on réussit jamais par soi-même dans le capitalisme, et où ils sont aujourd'hui dans l'élite politique et demain, quand ils vont cesser leur carrière politique, ils vont être recrutés par l'élite économique. Donc là, il y a vraiment pour moi une double aristocratie, si on veut réutiliser ce terme-là. Et évidemment, ça fait qu'il y a des effets de classe sociale, de classe avec des capitales culturelles et avec des parcours très précis qui se retrouvent en fait dans cette aristocratie élective. C'est pas l'aristocratie élective, c'est pas juste qu'elle est élue, c'est qu'il y a des gens qui ont évidemment beaucoup plus de chances d'être élus que d'autres. Et il y a des gens qui ont en fait aucune chance d'être élus. Et c'est entre autres lié en fait à l'imbrication entre avec le capitalisme, mais aussi avec un système raciste et puis un système sexiste et d'autres types de systèmes de d'inégalité évidemment.
Ouais, du coup, sur quoi est-ce que vous êtes appuyé pour ces travaux-là, à partir de quelles sources? Est-ce qu'il y a eu des travaux sociologiques? Est-ce que vous avez fait vos recherches dans un centre de ressources, à partir de quel texte, quelles sources? Et puis aussi, deuxième question, est-ce qu'il y a un axe sur les masculinités, justement, dans ces rapports de pouvoir-là, dans votre bouquin?
Alors, le livre d'entretien, c'est un livre d'entretien, donc ça c'est un livre d'entretien. Donc, sur la démocratie, non, c'est un peu ce que je disais, c'est-à-dire, moi je suis pas historien, j'ai une formation en sciences politiques, je me suis basé sur des textes d'époque, mais j'ai pas ouvert une boîte d'archives que personne n'avait jamais ouverte et j'ai dit je viens de trouver quelque chose là. Donc je me suis basé sur des textes de l'époque. Donc l'époque là, vous les avez vus, c'est je lance des coups de sonde à certains moments de l'histoire. Donc autour de la guerre d'indépendance des États-Unis, autour de la Révolution française, après ça autour de Jackson, après ça autour de 1850, après ça bon. Donc là j'allais dans ce qui m'était accessible de textes d'histoire. Donc les textes d'histoire là, c'est les discours parlementaires, ça peut être les chansons, ça peut être des journaux personnels, ça peut être des lettres personnelles, ça peut être des journaux, des manifestes, etc. Donc ça c'était le matériel disons premier. Puis il y avait évidemment le désavantage de travailler sur la France et les États-Unis en analyse comparative sur leur révolution, c'est qu'en fait, les deux pays sont un peu obsédés par leur propre histoire à ce sujet-là. Donc, il y avait des tonnes de personnes qui avaient déjà travaillé là-dessus aussi. Donc, je lisais des gens qui avaient fait des analyses avant, qui mettaient sur des pistes d'autres discours et de choses que j'avais pas vues. Donc, ça, c'est le matériel. Et puis, oui, c'est ça. Je travaille à partir du matériel, mais j'aime travailler à partir de faits concrets. Donc, par exemple, j'ai donné les exemples des femmes Igbo. J'ai trouvé plusieurs textes en anglais, principalement là, les femmes Igbo, je sais même pas s'il y a des trucs écrits en français là-dessus, là, mais c'est principalement des anthropologues dans ce cas-là. Il y en a qui sont allés rencontrer des femmes Igbo, il y en a qui, les femmes Igbo évidemment de 1929, il en reste plus beaucoup, donc ils sont allés voir aussi des rapports d'enquête, par exemple du gouvernement britannique suite à la guerre des femmes. Il y a eu des commissions parlementaires parce que en Grande-Bretagne, quand il y a un massacre, ils font tout le temps une commission parlementaire après pour expliquer pourquoi l'armée avait pas eu le choix de tirer. On peut faire la même chose avec la police, évidemment, dans les manifs. Donc, c'est ça. Ça, c'est mon matériel. Je ne sais pas si ça répond à votre question.
Est-ce qu'il y a un chapitre, une partie dédiée aux masculinités, justement, dans les rapports de pouvoir politiques, gouvernementaux, quoi.
Donc, c'est une bonne question et ça va être une mauvaise réponse. Donc, le premier livre sur l'histoire du monde démocratie, en fait, c'était tiré de ma thèse pour vous dire toute la vérité. Et donc c'est un travail que j'ai fait qui est assez ancien en fait, qui remonte aux années 90. Et aux années 90, je m'intéressais aux théories féministes, mais pas suffisamment pour les intégrer. Donc en fait, je parlais pas des femmes en fait dans ma thèse. Je pensais que c'était plus ou moins grave parce qu'en fait, je parlais de l'élite politique qui était en fait masculine. Mais en fait, évidemment, c'est une mauvaise réponse. Et donc quand j'ai transformé la thèse en livre, parce que c'était une thèse en anglais, donc j'ai dû faire un gros travail de réécriture pour la transformer en livre. J'ai intégré un peu les problématiques des rapports de sexe, mais c'est probablement très, très, très insuffisant si c'est ça qui vous intéresse. Dans La peur du peuple, beaucoup plus. Et j'ai beaucoup d'exemples de... En fait, je vous ai parlé des femmes Igbo, mais en fait, j'ai pour montrer qu'en fait, les mouvements sociaux pratiquent la démocratie directe et l'émeute et le lien entre assemblée et émeute. J'ai donné presque juste des exemples de femmes. Donc, j'ai donné l'exemple du mouvement des suffragettes en Grande-Bretagne, du Greenham Common Peace Camp en Grande-Bretagne, qui est un camp de femmes non mixtes qui a duré plus d'environ 20 ans autour d'une base militaire américaine contre des déploiements de missiles, les femmes Igbo, et j'en oublie, mais j'ai essayé de juste donner des exemples justement de d'action de femmes. Et mes travaux sur les questions de femmes et femmes, masculinisme, féminisme, ils sont pas là-dedans. Ils sont en fait menés avec Mélissa Blain, entre autres, ou avec qui est une sociologue de l'UQAM, qui est spécialiste en fait de l'attentat antiféministe contre l'école polytechnique, où un homme est rentré à Polytechnique et a tué 14 femmes à Polytechnique en décembre 89. Ça va faire 30 ans ce 6 décembre. Elle est à Montréal en ce moment, en train de planifier des commémorations avec d'autres féministes. Donc, Mélissa Blais, c'est ma principale collaboratrice qui a ses propres projets de recherche et avec qui on travaille beaucoup sur la question du masculinisme. L'historienne Christine Barre ici en France, Diane Lamoureux et d'autres. Donc ça, c'est d'autres projets de recherche. J'ai un ouvrage que j'ai fait tout seul, mais inspiré évidemment de Mélissa et d'autres, sur la crise de la masculinité. Mais c'est pas lié à ça, ouais.
Merci.
Moi, c'est juste une réflexion. Bon, c'est un petit peu par rapport à ma propre expérience politique ou ma pensée après des lectures et après la lecture de ton livre aussi. Et moi, des points qui m'intéressent personnellement, c'est le développement de l'industrie de l'armement. Et je trouvais intéressant dans ton livre que justement tu mettes ça par rapport au Moyen-Âge où à un moment les assemblées existent. Elles se font, mais finalement, c'est nécessaire de pouvoir construire des canons et donc, du coup, de récupérer de l'argent et de finalement détruire les modèles démocratiques ou anarchistes qui se créent autour de cette agora du peuple, enfin, des assemblées dans les campagnes. Que ce soit justement un des points de naissance de l'industrie de l'armement. Ça, je trouve ça assez intéressant. Et l'autre chose que j'ai bien noté, que j'ai apprécié, c'est de créer de l'irrationnel, parce que j'ai l'impression aujourd'hui que y a une espèce de... J'arrive pas à trouver le mot, mais entre la névrose et la folie des dirigeants, plus des termes politiques comme le confusionnisme, qui crée une sorte de folie collective, et j'apprécie que tu puisses nous donner les moyens de déconstruire justement cet irrationnel et cette forme d'hallucination politique collective qui permet tout d'un coup de voir le soufflet de la démocratie peut se descendre d'un coup. Voilà. Donc, merci.
Bonjour. J'aurais voulu savoir, en fait, un peu, sur votre opinion, en fait, comment pourrait, en fait, être possible une vie réelle dans des pays comme les nôtres, la France ou le Canada, quoi.
Vous en pensez quoi ?
Il y a beaucoup de réflexions à avoir sur quel type de fonctionnement, sur l'échelle du fonctionnement et sur comment l'atteindre aussi. C'est complexe, mais j'avais bien envie de savoir votre avis.
Oui, c'est complexe, ouais. Je vais répondre. Je répondrai pas directement à votre question, mais je vais dire que, en fait, moi, je pense que, en fait, dans les et en fait, c'est ça que moi m'intéresse. Et probablement, peut-être, ça vous intéresse pas du tout, mais moi, c'est ça qui m'intéresse, c'est qu'en fait, dans les, on a souvent l'habitude de regarder, en tout cas en sciences politiques ou dans ma discipline, c'est certainement le cas. On voit les régimes. Donc on dit c'était les régimes monarchistes, c'était les dictatures, c'était des régimes autoritaires, c'est des régimes parlementaires. Et en fait, ça cache ce qui se passe dans la société et comment les gens fonctionnent réellement. Donc ces régimes, ils ont évidemment une très grande influence sur la vie des gens et c'est un des vrais enjeux. Mais justement, pour le dire, je l'ai raconté vraiment trop rapidement, ça a été rementionné. Mais par exemple, au Moyen-Âge, il y a la monarchie. mais la monarchie, en fait, ne fait à peu près rien pour la population. Et en fait, la population, c'est vraiment très stratifié. Il y a les guildes de travailleurs, il y a les guildes de métiers, de travailleurs et travailleuses, et il y a les communes d'habitants. Et en plus, il y a les milliers de monastères qui s'autogèrent à peu près, même s'ils ont une charte avec le Vatican, mais dans la réalité, ces femmes ou ces hommes travaillent et sont auto... Et donc, tout ça, ça ne relève pas du principe de la monarchie. La monarchie est en haut. Et je pense que dans nos sociétés, c'est la même chose. Et donc, aujourd'hui, en France, je connais pas toutes les expériences, mais par définition, il y a le président, l'Assemblée nationale, les tribunaux, la police, le grand capital, etc. Mais je pense qu'aujourd'hui, en France, il y a plein d'expériences de démocratie directe en ce moment qui ont lieu tous les jours, en fait. J'imagine bien que ce soit dans les mouvements sociaux, pendant les mouvements sociaux. Et puis après ça, il y a des structures qui sont ni électorale, ni de démocratie directe, mais qui peuvent être extrêmement autoritaires, voire dictatoriales, par exemple, dans des relations interpersonnelles, comme par exemple dans des couples hétérosexuels. Et il n'y a pas d'élection dans les couples hétérosexuels, généralement. Et il peut ne pas y avoir de démocratie directe du tout dans un couple. Et on peut avoir un dictateur dans un couple. En France, aujourd'hui, qui est en principe pas une dictature. Et donc, je pense que ça dépend où on regarde. Et donc, c'est pas une réponse, mais ma réponse, c'est... Mais c'est pas une réponse, mais ma conviction, c'est qu'en fait, aujourd'hui, au Canada, aux États-Unis, ailleurs, il y a plein d'expériences de démocratie directe dans la réalité concrète de ce que les gens font dans les mouvements sociaux. Et pour répondre plus spécifiquement à votre question, je suis... Et là, c'est peut-être en écho avec Chouard et d'autres. Moi, j'ai des idéaux politiques et j'ai des fois des espoirs, beaucoup plus de désespoir, mais des fois j'ai des espoirs politiques quand je suis particulièrement de bonne humeur. Mais en fait, moi, je ne pense pas que les grandes transformations, elles surviennent parce que quelqu'un a eu un bon plan. Et si elles surviennent parce que quelqu'un a eu un bon plan, généralement le résultat de ça, c'est pas la réalisation de son bon plan, ou c'est la réalisation de sa prise de pouvoir à lui sur tous les autres et l'imposition de son plan. Et donc ça, c'est ce qui n'est pas mon idéal, même quand je suis de mauvaise humeur. Et donc moi, je pense que c'est très intéressant d'avoir des discussions sur qu'est-ce que pourrait être la nouvelle constitution, ou le tirage au sort, ou le référendum, ou la démocratie directe, ou l'autogestion, etc. Mais à l'ensemble de la France, par exemple, qui est un peu votre question, c'est ça? Et la France étant aussi, j'imagine, la Nouvelle-Calédonie, la Guadeloupe et Tahiti et tout ça, bon. Moi, je ne sais pas comment on peut transformer ce pays-là en quelque chose d'autre. Et même si je le savais, ça n'aurait aucune importance. Et si ce que je savais avait une influence, je serais probablement en prison. Et donc, s'il y a une transformation de la France de manière radicale dans une perspective qui, moi, m'intéresse, je pense que c'est parce qu'il va y avoir un énorme bouleversement qui ne dépendra pas de l'organisation militante de quelques intellectuels ou militants bien intentionnés qui ont le bon plan. C'est qu'il va se passer quelque chose de beaucoup plus important en termes de catastrophe économique. Il faut nécessairement que l'élite politique se divise, pas pour les votes, là, qu'il y a une vraie division au niveau de l'élite politique. Là, en ce moment, il y a une fausse division de l'élite politique, mais une vraie division de l'élite politique. Les révolutions surviennent quand l'élite politique ne se tient plus. Quand il y a généralement une crise financière très grave, et généralement une crise internationale aussi qui affecte la puissance de l'État de tenir sa population, quand la population est n'en peut plus et qu'il y a des bavures policières beaucoup plus graves que maintenant, même si elles sont extrêmement graves maintenant, mais que les gens sont... En fait, la plupart des révolutions commencent avec un massacre de manifestations, en fait, et je ne pense pas que la police, c'est nos amis. Mais je pense que pour qu'une révolution survienne et ait quelque chose de succès, il faut qu'à un moment donné, il y ait une part des forces de l'ordre qui basculent. Parce que si les forces de l'ordre ne basculent pas, votre révolution, même si vous avez la meilleure idée, la meilleure stratégie et le meilleur plan pour un monde meilleur, vous ne l'aurez pas. C'est ma conviction. Donc là, je viens d'un peu de plomber l'ambiance, là, mais ça, c'est ma conviction. Donc moi, je n'ai pas de réponse à votre question. J'ai juste des constats, disons... historique. Et peut-être je me trompe, hein. Peut-être que c'est peut-être que je me trompe. Et donc, moi, donc, comme j'ai ce pessimisme combatif, je m'engage ou je m'intéresse aux pratiques concrètes de démocratie directe qui existent réellement, malgré le fait que notre système en général est totalement injuste selon moi.
Voilà. Donc, je pose une question, effectivement, qui va dans la continuité de ce que vous dites actuellement. je ne sais pas si vous connaissez des démocraties qui existent, enfin qui essayent en tout cas de se mettre en place, qui ont commencé dans des petites villes comme Saillant en France, et effectivement à Toulouse, il y a une liste qui s'appelle Archipel citoyen, qui essaye de mettre une démocratie permanente. Alors le gros travail qu'on a, c'est effectivement mobiliser la population, parce que comme vous le dites, ça se fera pas par des personnes, ça se fera par une mobilisation de personnes. Et il effectivement et alors justement, je sais pas si vous pouvez parler, si vous êtes renseigné justement sur les expérimentations qui ont été faites, justement comme la démocratie au Rojava, qui est quand même énorme. Et ce que je voulais aussi soulever, parce que ça a été plus ou moins dit, mais effectivement, on est contre aussi un système patriarcal capitaliste, puisque le capitalisme fonctionne grâce au fait que 80% de la population vit en précarité, et ce sont surtout des femmes. Et puisqu'il y a le travail gratuit des femmes qui font que le système peut continuer, puisque effectivement, et ça, il me semble que c'est important de le dire, et dire aussi que les révolutions ont commencé grâce aux femmes. La Révolution française, on n'en parle pas, mais c'est parce que c'est l'histoire, on a invisibilisé la femme, quoi. Mais en réalité, les femmes sont souvent à l'origine des mouvements. Si actuellement le mouvement des Gilets jaunes se perdure, mais parce que les femmes sont... Pardon ? Mais la question, je vais vous poser. Apparemment, dès que je parle des femmes, ça dérange, quoi. Mais je peux dire aussi pourquoi je veux poser la question là. Si j'ai commencé pour ça, c'est par rapport aux expérimentations qui existent. Donc, je voulais savoir si effectivement vous êtes intéressé à Rojava, qui actuellement est en train d'être exterminé par des guerres. C'est le lien justement avec ce qu'on disait. Les guerres, c'est justement le fondement du capitalisme, puisque c'est un système militaire ou industriel qui fait que le capitalisme survit actuellement.
Oui, donc j'ai des amis à Saillant, je suis allé à Saillant, mais je ne vais pas me prononcer sur les expériences qui relèvent plus de projets municipaux de ce type, et donc le projet ici à Toulouse, je ne vais pas en parler non plus parce que je ne connais pas du tout, j'en apprends l'existence maintenant. Donc je n'ai rien à dire là-dessus. Mais les femmes, vous avez raison, et en plus les manifestations qui se font massacrer, où les gens se font tuer et que ça déclenche des révolutions, c'est souvent des manifestations de femmes, en fait, comme en Russie par exemple, et des ouvrières qui se font tirer dessus. Cela dit, je vais prendre la balle au bon parce que vous parlez des Kurdes, et malheureusement l'exemple des Kurdes confirme un peu ce que je disais, malheureusement, c'est-à-dire que justement les Kurdes ont eu avec Öcalan et tout, ils ont eu, qui est en prison, ils ont eu un moment de grâce, si on peut dire, où ils ont eu comme une espèce d'ouverture possible qui était liée à des bouleversements absolument très très importants dans la région, des guerres en fait. Et donc là, il y a eu une occasion pour les Kurdes d'essayer quelque chose qui là était lié à un plan. Donc là, du coup, Öcalan et d'autres avaient développé un plan inspiré entre autres par Murray Bookchin avec le municipaliste libertaire. On y a inséré une très forte influence féministe avec des femmes qui étaient partout. Il y avait des logiques de parité ou de présence pour les femmes avec des assemblées de femmes aussi. Et donc là, c'était quelque chose comme un plan qui se réalisait dans la mesure où la guerre dans la région donnait la possibilité de réaliser ce projet. Et je ne connais pas l'avenir, mais en ce moment, si ce projet de confédéralisme démocratique chez les Kurdes échoue, c'est pas parce que en fait la démocratie plus directe confédérale ne fonctionne pas, c'est parce qu'ils vont être massacrés en fait. Et donc voilà. Ben je peux en prendre une ou deux autres là s'il y en a. Je peux prendre une ou deux autres là si y a une ou deux autres personnes qui veulent s'exprimer. Puis après ça, je pourrais répondre en vrac. Puis après ça, on ira peut-être prendre un verre.
Du coup, la question qui suit un peu, c'était sur vraiment plus en revenir à l'évolution du terme. Je ne sais pas si vous êtes intéressé aux évolutions vraiment très contemporaines. Ça fait un petit peu écho à la question sur la novlangue, mais il y a toutes ces espèces de déclinaisons du terme de démocratie en degré. Enfin, on parle de la démocratie directe, démocratie participative, élective, consultative, délibérative, hein. Est-ce que dans la manière dont c'est utilisé actuellement, c'est plus un mouvement de réappropriation où on essaye de remettre un peu de sens dans la démocratie, ou est-ce qu'à l'inverse, en réalité, ça vide un peu de son sens. Ça continue à décliner en fait un terme et on ne sait plus trop ce qu'il y a derrière. Et c'est plus de la dépossession qu'autre chose. Derrière ça, je ne sais pas si vous avez travaillé là-dessus ou pas.
Voilà. Est-ce qu'il y a une autre... Oui.
Ouais, c'est un peu en lien avec ce que tu viens de dire. Vous avez parlé de consensus et de délibération et tout ça, et c'est des mots qui sont vachement repris aujourd'hui par les institutions politiques comme pour essayer de se relégitimer. Oui. On parle beaucoup de démocratie participative, d'impératif délibératif, et en fait on a souvent l'impression que ça veut pas dire grand chose parce que tout le monde est d'accord derrière, et en fait quand on discute avec les gens on se rend compte qu'ils ont des idées très différentes sur le sujet. Et du coup, comment vous définissez vraiment ce que vous appelez la démocratie directe, parce que je pense qu'on n'a pas tous la même définition. Et en deuxième question, remarque, je suis complètement d'accord avec le fait que la pratique démocratique, elle n'est pas née à Athènes, mais peut-être que c'est là où pour la première fois on l'a nommée et théorisée, et peut-être que c'est pour ça qu'on dit que ça vient de là-bas. Et aussi, comme c'est un concept qui a une histoire et donc qui se rapporte à une culture, par exemple à l'époque de Aristote et Platon en Grèce, il y avait Confucius en Chine qui théorisait quasiment, enfin pas l'inverse, mais qui disait que en gros qui prônait l'importance de la hiérarchie et du fait de rester à sa place. Donc nous aujourd'hui on est sûr de nous en disant que la démocratie c'est la bonne chose, mais pour des sociétés qui sont pas construites avec tous ces concepts qui n'ont pas eu cette histoire là peut-être qu'en Chine, la démocratie, ça veut rien dire, en fait. Je sais pas si je suis claire. Donc, c'était ma question, c'est la tâche culturelle de la démocratie. Qu'est-ce que nous, ça nous fait quand on en parle?
Oui. C'est des bonnes questions. Vous m'avez lancé plein de demandes par rapport à oui, mais tel mot. Et je pense que justement, une partie, et donc la capacité de récupération et tout ça. Bon. Puis, réjouve, et j'y arrive à la fin. Il y a différentes manières de voir cette situation, mais clairement, moi, ma compréhension, c'est que si ce que j'ai dit, c'est à peu près une trame à peu près comme correcte du dévoiement du mot démocratie, qui était jamais qualifié, hein, il n'y avait pas de qualificatif à démocratie à ce moment-là, puisque la démocratie ne pouvait faire écho qu'à une chose qui était Athènes de l'Antiquité. Donc, on n'avait pas besoin de, comme vous l'avez mentionné, maintenant, il y a même démocratie de marché, démocratie actuariale, démocratie culturelle, cyber-démocratie, démocratie participative. Il y a toute une palette, là, on s'y perd. Et donc, maintenant, on doit dire démocratie directe. Parce que si on dit pas démocratie directe, on sait pas de quoi on parle. Mais avant, on disait pas démocratie directe, ça avait pas de sens. Et donc, je connais par exemple des anarchistes, entre autres, mais qui disent nous on n'utilise plus, nous on a abandonné le mot démocratie, c'est le mot de l'ennemi maintenant, on peut plus travailler avec le mot démocratie parce que justement il est trop pourri en fait, il est gangréné ce mot-là et il faut essayer de travailler avec d'autres mots. Moi, je n'utilise plus jamais le mot démocratie, je pense, pour parler du régime qui est en place ou pour parler des structures électorales, mais moi, je continue à l'utiliser, mais après ça c'est moi, vous pas besoin du tout d'être d'accord avec moi. Mais je dis démocratie directe parce que c'est de ça que je parle. Et effectivement, il y a toute une palette et les élites ont la capacité de jouer avec ça et d'organiser des grands débats. Par exemple, vous avez eu un grand débat, vous êtes chanceux, nous on est un peu jaloux quand même. Et d'instaurer par le haut des pratiques de dites participatives ou consultatives ou délibératives, etc. Et donc, moi, je travaille pas là-dessus en tant que politologue, et puis j'y ai pas participé non plus parce que je suis pas dans ces réseaux-là. Moi, quand j'ai le temps de militer, j'ai plus de plaisir je trouve ça plus pertinent de militer avec des groupes autonomes qui sont pas en interaction avec l'État. Mais ma compréhension, le peu que j'en comprends, mais peut-être que vous en savez beaucoup plus que moi là-dessus, c'est que même des collègues qui sont pas nécessairement excessivement critiques par rapport au système disent, ben généralement, c'est quand même de l'enfumage et comme c'est une stratégie de légitimation de décisions qui sont soit prises à l'avance, soit prises après, mais on fait venir des gens pour présenter les différents points de vue, puis après ça, les parlementaires vont bien prendre les points de vue qui viennent justifier ce qu'ils ont envie de faire. C'est ma compréhension, c'est très, très schématique, c'est très, c'est Brossaigue rentré, c'est probablement beaucoup trop simple, mais c'est ma compréhension. Et donc ça, ils vont appeler ça de la démocratie délibérative ou de la démocratisation du système ou des éléments de démocratisation. Et donc, ça montre bien ce que je disais, c'est-à-dire que le mot, il a cette force d'évoquer donc la participation des gens, et les gens veulent plus de la démocratie. Et il y a des études dans la revue Mots, par exemple, qui est une revue qui travaille sur les mots. Je sais pas pourquoi ils ont choisi ce nom-là, mais en tout cas, la revue Mots, il y a un texte là, que je peux vous trouver la référence si vous voulez là, de quelqu'un qui a étudié en fait en France d'ailleurs comment on utilise le mot démocratie. En fait, c'est quelque chose qu'on veut toujours plus de démocratie. Ça n'existe pas là, les gens qui veulent moins de démocratie. C'est extrêmement rare. C'est on veut toujours plus de démocratie. Et même les personnes qui travaillent un peu sur les nouveaux partis ou les moins nouveaux partis d'extrême droite aujourd'hui, ou les néo-fascistes des années 2000, ils disent, c'est pas les fascistes des années 30. Les fascistes des années 20 et 30, ils étaient contre la démocratie. Ils utilisaient le mot démocratie pour parler du régime parlementaire, mais ils disaient que c'est un régime totalement dégénéré. Ils allaient se débarrasser de la démocratie qui était le régime parlementaire. Aujourd'hui, on n'entend pas ça chez les fascistes, les néo-fascistes. Au bastion social, c'est ça qu'ils disent en buvant des bières, mais parce qu'eux aussi boivent des bières, mais ce qui permet de faire des batailles à égalité à la fin, mais même les néo-fascistes sont pour la démocratie aujourd'hui. Donc, voilà. Donc, ça répond pas vraiment à votre question, c'est plus une sorte de réflexion. La question du consensus est un mot un peu flou là, mais la question du consensus à laquelle je faisais référence, j'ai parlé beaucoup trop vite et de manière beaucoup trop superficielle de plusieurs choses, donc je suis désolé, c'était pas très clair, mais la question du consensus, en fait, moi je fais référence à des groupes militants où j'ai vu des pratiques de recherche du consensus, et je parle pas du consensus social sur tel enjeu ou des choses comme ça là, à très grande échelle, pour les philosophes politiques là, dans une perspective disons de Habermas là, mais je parle du consensus comme ça se pratique concrètement dans des collectifs bon moi je suis pas dans les collectifs non mixtes là, mais les collectifs féministes ou des collectifs queer ou des collectifs anarchistes ou des collectifs écologistes radicaux etc. où il y a la recherche du consensus comme processus de prise de décision. Moi j'ai déjà été dans des groupes par exemple où l'objectif c'était d'atteindre le consensus, mais sachant que ça pouvait être difficile d'atteindre le consensus, on avait aussi une procédure qui permettait de passer un vote à 75%. Puis le consensus pouvait être bloqué. Si quelqu'un considérait vraiment que une personne pouvait bloquer le consensus en disant « je m'y oppose parce que c'est des questions fondamentales pour le groupe, on est en train de nuire à l'esprit même du groupe », ou on pouvait déclarer son malaise avec la décision consensus, mais dire qu'il bloquait pas le consensus, même s'il était pas d'accord. Donc bref, ça c'est donc moi quand je fais référence au consensus, c'est des pratiques militantes concrètes et pas le grand consensus social qu'on essaie de nous imposer, qui est nécessairement en fait une arnaque dans une société totalement inégalitaire comme les sociétés libérales républicaines qu'on a aujourd'hui. Par définition, il peut pas avoir de consensus. Il y a tellement d'intérêts contradictoires et opposés dans tous les sens en fait que c'est pas possible. Même pour sauver la planète, il y a des gens qui sont en train de se faire de l'argent avec ça. Et puis donc, même sur un truc qu'on se dit, ben là, ça, il va y avoir un consensus comme ça, même là-dessus, c'est compliqué. Pour terminer maintenant, Athènes théorisée, oui, mais en fait, l'avantage d'Athènes, c'est l'écriture. Et donc, les expériences dont je vous ai parlé, c'est des peuples sans écriture. Et donc, moi, je ne sais pas s'ils l'ont théorisé ou pas théorisé, mais en tout cas, ça n'a pas été écrit. Et donc, dans la mesure où c'est pas écrit, on pense que c'est pas théorisé. Et on dit qu'Athènes s'était théorisé parce qu'en fait on a Platon qui a tout piqué ses idées à Socrate. C'est un peu comme les évangélistes avec Jésus. Et donc on a une théorie de la démocratie qui est liée à Athènes, mais c'est juste parce qu'il y a de l'écriture. Et donc moi je peux pas présumer que dans des milliers d'années d'expérience, dans des milliers de lieux où ils pratiquaient la délibération, il n'y avait pas des gens qui n'avaient pas un Socrate Mohawk par exemple ou un Socrate Igbo. C'est juste qu'on... Puis en plus, je ne suis pas anthropologue, donc peut-être qu'en plus, il y a des anthropologues qui vous diront « Non, non, ils ont des théories de leurs trucs, là, c'est juste qu'on les connaît pas ou on les enseigne pas. » Puis c'est des théories qui font référence à la cosmologie, puis à l'idée de famille, puis à, je sais pas, là, j'invente déjà des choses, là, j'ai aucune idée, je les connais pas. Pour la Chine, je suis tombé sur une enquête qui montre qu'en fait, en Chine, traditionnellement, ça revient à ce que je disais tout à l'heure, il y a un régime monarchiste en haut, ou impérial, et puis en bas, on a l'impression que tout fonctionne comme ça, mais en Chine, apparemment, c'était des milliers et des millions de comités qui géraient leurs trucs, là, des comités de parents, des comités de quartier, des comités de boulangers, des comités. Puis ça, c'est traditionnel, où en fait, il y a une très forte capacité d'auto-organisation traditionnellement de la société chinoise, même si au-dessus, il y a un empereur. Et j'imagine des gouverneurs, là, je sais pas comment ça marche, le système traditionnel chinois, impérial, mais pendant des centaines d'années, c'était comme ça. Là, c'était partout, il y avait des guildes de métiers, des guildes de machins, des guildes de trucs, et donc les gens pratiquent une certaine forme d'auto-organisation pour leurs affaires communes au niveau vraiment local. Ça, c'est pour la Chine. Merci beaucoup.
Merci.
C'était Francis Dupuy-Déry qui discutait autour de son livre « Démocratie, histoire politique d'un mot aux États-Unis et en France » paru aux éditions Luxe.
Sur livre 2.